Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons aujourd'hui penser à avoir une pensée pour Gérard Fayol qui nous a quittés il y a que quelques jours. Alors, je préciserai qu'il était originaire du Bugle. Il a été licencié à lettres à Bordeaux. Gérard Fayol est d'abord professeur au lycée Lorgaté de Périgueux en 1964-1966. Puis il sera chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale et ensuite à l'hôtel Matignon au service de la francophonie de 1967 à 1974. En 1975, il prend la direction d'une société de presse et d'édition tout en gérant pendant 10 ans la politique culturelle de la région Aquitaine. Au 1er octobre 1986, il fut nommé rédacteur en chef coordonnateur des publications du service d'information et de diffusion du Premier ministre. Donc, Gérard Fayol devient sénateur de la Dordogne le 13 janvier 1997, en remplacement d'Yves Guénat, nommé au Conseil constitutionnel, et dont il était le suppléant. Gérard Fayol ne parvient pas à se faire réélire au Sénat lors du renouvellement triennal du 30 septembre 1998. Alors, bon, il aura quand même quelques mandats locaux. Il sera maire du Bugle de 1983 à 2008. C'est là où je l'ai rencontré d'ailleurs pour une des premières fois. Il sera conseiller général de la Dordogne de 1979 à 1998, dans le canton du Bugle évidemment. Président du conseil général de la Dordogne de 1992 à 1994. Conseil régional d'Aquitaine de 1986 à 1996, vice-président de la communauté des communes Terre de Cro-Magnon de 2000 à 2008. Et voilà déjà un bon parcours. Alors il aura d'autres activités. Gérard Fayol était président de la Société historique archéologique du Périgord, la CHAP, jusqu'en 2018. Il est président de l'Institut Eugène Leroy, vice-président de l'Académie des lettres et des arts du Périgord. Il est membre en 1969 du comité des historiens et géographes de langue française. Bien sûr, il aura quelques décorations. Alors, il est chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'ordre national du mérite et chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Alors il est auteur évidemment, alors là il est beaucoup plus connu peut-être que son passage politique. Il est auteur de nombreux livres sur le Périgord. Alors, je vous en donnerai quelques-uns. 50 ans de bataille politique en Dordogne, 1945-1995, Histoire du Périgord, La grande histoire du Périgord illustrée. Et c'est un livre qui est illustré par Francis Pralon. La vie quotidienne en Périgord, au temps de Jean-Coul Croquant, La vie quotidienne des élus locaux sous la Ve République, Le clan des Ferrades, Le Périgord de Jacques Croquant, Le Périgord des Trente Glorieuses et Les Nouvelles Ruralités, plus peut-être quelques-uns que je n'ai pas dans ma liste. Alors il a écrit bien sûr des articles, alors je citerai Culture à milieu rural, alors c'est le reflet du Périgord 1992, préface au soleil de Périgord et puis préface de Un vrai visage de Jeanne de Roy. Voilà. Alors on va prendre un de ses livres, c'est L'histoire du Périgord, c'est édité par Pierre Fallac. Alors, il y a 2 années d'édition, en 1983 et 1988, donc Histoire du Périgord par Gérard Fayol. On va prendre le tome 1 de la préhistoire à la Révolution, et il est dédié ce livre à mes compatriotes du canton du Bugle. Alors, la légende des 1000 siècles. Alors, les historiens et même les philosophes semblent avoir, bien sûr, je prends la lecture, les historiens et même les philosophes semblent avoir renoncé à essayer de donner un sens à l'histoire, mais l'auteur de cet ouvrage, ayant rédigé quelques-unes de ses pages au cœur du Yucatan, c'est pas tout près des pyramides de Maya, où le sang des sacrifices humains faisait lever le soleil, s'est laissé aller à une méditation sur l'évolution de sa province natale, sans trop s'interroger sur l'avenir des civilisations, dont nous savons depuis Valérie qu'elles sont mortelles, mais comment échapper en réfléchissant à l'histoire d'une province française à cette fascination du destin des peuples alors que la nuit tropicale tombait sur la jungle mexicaine et que la mobilité des ruines, les emblèmes des anciens empires et le visage des dieux morts. Voilà. Alors, bien sûr, ça nous amène quand même un peu plus loin que Sarlat ou Périgueux. Voilà, bon. En outre, c'était quand même certainement un beau voyage. Alors, donc, je poursuis la lecture. En outre, comment renoncer à commencer avant d'aligner les faits quand il s'agit de l'histoire de son propre pays. Commentaire libre qui ne prétend rien démontrer, mais qui va s'efforcer de situer l'évolution de cette province du Périgord dans le cadre plus large que la nation française. Commentaire spontané, de quelqu'un qui a vu disparaître en quelques années la civilisation millénaire basée sur l'agriculture, la charrue, le cheval, et qui a vu l'automobile, la télévision et l'ordinateur rompre brusquement le rythme qu'on pouvait supposer éternel. Alors moi j'ai vu, j'ai vu labourer un champ avec une charrue tirée par un cheval. Ben, c'était certainement un des derniers animaux qui était attelé, si je puis dire, à ce travail. Et c'était dans la vallée de Dordogne. Alors, dans un précédent ouvrage, nous avions été frappés de voir l'évolution très rapide des mœurs dans la province. En 1789 et 1856, date à laquelle la première locomotive faisait son entrée en gare de Périgueux. En quelques 60 années, d'une vie d'homme, la province a vu beaucoup d'événements. Les vieux Périgourdins qui, en 1856, en gare de Périgueux, première locomotive étincelante de cuivre et couverte de fer, peuvent se souvenir du mois de mars 1789, où ils virent à la cathédrale Saint-Front l'état généraux de la province réunis sous la présidence de M. de Verteillac, grand sénéchal. Entre les deux dates, leur vie quotidienne insensiblement a changé. Cette génération d'hommes est passée d'un monde presque féodal au monde de la civilisation industrielle. Et la dernière à avoir vécu vraiment loin des villes, dans un monde échappant encore à la contrainte si centralisatrice des grandes métropoles et au carcan des frontières finies. La vie quotidienne du Périgord, autant de jacoules croquants. Alors c'est, bien sûr, c'est un livre de Gérard Fayolle. Alors, je me souviens, moi, avoir vu, enfin, je crois qu'on a déjà parlé de la première locomotive entrant dans Périgueux. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, que dire, alors je reprends la lecture, que dire de la génération des enfants du siècle qui entendit à 14 ans sonner des cloches de toutes les églises de Périgord dans la paix des villages au soleil du mois d'août pour la grande guerre européenne qui allait devenir mondiale. Pour leurs 20 ans, ils assistaient à la fin d'une société dont le symbole allait sous les ormeaux de la place de leur village, un monument aux morts. Eh oui, toute commune a son monument aux morts, hélas. Alors pour leurs 20 ans, les enfants du siècle avaient vu le comble de l'horreur, ils n'auraient pu imaginer le pire. Ils se réalisaient pourtant l'année de leurs 44 ans, ils virent leur province envahie par une armée étrangère s'installer sur leur terre, événement qui ne s'était pas produit depuis la guerre de 100 ans. Vous savez qu'il y a, depuis la guerre de 100 ans, il y a quand même eu quelques guerres, un peu d'envahissement, mais enfin, pas à ce point-là. Les partisans de la division de la Stretch soulevaient la poussière des chemins où allaient enfants chercher les champignons. Ils décrochèrent leurs fusils de chasse qu'ils avaient soustraits aux réquisitions et devinrent hors la loi dans leur propre forêt. Il suffit donc au Périgord d'évoquer leurs souvenirs personnels pour savoir de toute évidence que l'histoire avance à la fois par lente évolution et par crise. Le général de Gaulle disait que la France s'était faite à coup d'épée. À coup d'épée et à coup de fusil aussi. Bon. Il est incontestable que les affrontements et la guerre sont une donnée immédiate pour qui a noté les événements, le long déroulement des siècles que nous allons examiner en quelques chapitres paraîtra peut-être laisser aux yeux du lecteur une trop grande importance à la guerre. Eh oui, malheureusement. Et malheureusement, elle fut pour des millions et des millions de Périgourdins qui nous précédèrent sur cette terre le fait essentiel, l'élément majeur de la vie quotidienne. Comment c'est dès lors passé sous silence les affrontements du Moyen-Âge, les guerres de religion, la fronde, les révoltes paysannes, les conflits entre les cités et leurs seigneurs, les conflits entre les cités. Il fallait au contraire mentionner dans une histoire locale les principales campagnes militaires pour que le lecteur qui connaît les lieux puisse imaginer d'une manière concrète dans les paysages qui lui sont familiers les horreurs de la guerre. Espérons que, ma foi, les horreurs de la dernière, ce sera vraiment les dernières horreurs, je ne sais pas. Alors, je vais continuer la lecture. De même, il nous a paru souhaitable de souligner les évolutions générales de la société, des idées, des mœurs, et surtout de signaler, pour chaque grande époque, les principales réalisations artistiques, preuves et symboles de la vitalité des rêves d'un peuple. Eh oui. Brosser à grands traits dans cette étude, de pouvoir avoir l'ambition de recenser même la totalité des faits les plus importants. Il a fallu faire des choix en se fixant pour objectif de privilégier les données les plus significatives. Il a également paru souhaitable de faire appel aussi souvent qu'il se pouvait à des écrits de témoins des événements cités. Les témoignages de première main obtenus du chroniqueur qui observe son siècle, de l'homme de guerre qui explique sa tactique, de l'homme d'église qui décrit la misère d'État, du fonctionnaire qui rédige un rapport donneront au texte le parfum des siècles disparus, qui n'ont pas toujours été d'ailleurs très calmes. Alors, le premier tome de cet ouvrage se veut un survol de l'histoire du Périgord, des origines à la veille de la Révolution. Le tome deuxième nous conduira jusqu'à notre histoire au lendemain de la Libération. Il ne nous a pas paru possible d'en exclure la préhistoire. Ben oui, ça tient quand même pas mal de place. Alors, préhistoire à laquelle plusieurs pages sont consacrées, le rôle majeur des gisements préhistoriques en Dordogne, l'imposer. Mais outre ce fait capital, il fallait tenir compte de l'importance de cette partie de notre passé. Importance chronologique tout d'abord, les quelques 2000 années de notre histoire proprement dite s'appuient sur des centaines de milliers d'années où l'homme a vécu et évolué sur des collines et dans les vallées que nous connaissons aujourd'hui. Elles ont la même forme, mais peut-être pas le même emploi. Alors pour quiconque veut réfléchir sur l'histoire de notre province, le rôle joué par cette terre au cours des anciens millénaires est un fait essentiel. Il ne faut aucun doute qu'un territoire aussi longuement occupé et d'une manière aussi continue a joué un rôle considérable dans notre très lointaine histoire sur laquelle nous n'avons que de fragiles notions. Il est très important de savoir que nous vivons aujourd'hui dans le cadre où se succédèrent des civilisations et que peut-être le pôle de ces civilisations se situaient dans la vallée de la Vézère, qui est quand même très riche en vestiges. Alors l'historien Pierre Chaunu, qui dans son ouvrage « À France » vient de donner des aperçus tout à fait nouveaux de la formation de notre pays, analyse le poids considérable de ce passé. Il note ce fait si l'on étudie la période qui se situe vers 40 000 ans avant Jésus-Christ, la science préhistorique a repéré et inventorié 5 gisements, 5 tombes significations religieuses qui prouvent une interrogation sur l'au-delà et une croyance, une forme de vie après la mort. Or, sur ces 5 emplacements, dont 2 se sont situés en Asie, en Ouzbékistan et Mont Carmel, et les 3 autres dans le sud-ouest de la France. Il s'agit du Mas d'Azil, qui est un peu plus bas, dans l'Ariège, voilà, c'est ce que je disais, de la chapelle Ossin en Corrèze et de la Ferracie en Ordogne, dans le carton du Bugue, bien évidemment. Alors la Ferracie, je crois, ne se visite pas, mais c'est très riche en monuments, enfin, comment je pourrais dire, en vestiges de préhistoriques. Alors si l'on voulait comparer d'autre part la densité des sites préhistoriques entre diverses régions, même celles qui sont connues pour leur richesse en la matière, on s'apercevrait sans doute que le Périgord est une des terres les mieux pourvues, peut-être la mieux pourvue. Si l'on peut tirer une conclusion scientifique de cette constatation, il est néanmoins permis de penser, sans être outrecuidant, que cette région a joué un rôle capital dans l'histoire de l'humanité. Voilà, je vais arrêter là cette lecture, mais je vous retrouverai la semaine prochaine avec, mais ma foi, encore Gérard Fayol. Voilà.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.